93, deuxième partie, livre 3, suite. Chapitre 7, on se montrait. On se montrait le repli du couloir de gauche, où Robespierre avait dit, bas à l'oreille de Garat, l'ami de Clavière, ce mot redoutable. Clavière a conspiré partout où il a respiré. Dans ce même recoin, commode aux apartés et aux colères à demi-voix, Fabre d'Églantine avait querelé Rome et lui avait reproché de défigurer son calendrier par le changement de Fervidor en Thermidor. On se montrait l'angle où siégeaient, se touchant le coude, les sept représentants de la Haute-Garonne qui, appelés les premiers à prononcer leur verdict sur Louis XVI, avaient ainsi répondu l'un après l'autre « Mail, la mort. Delmas, la mort. Projean, la mort. Calès, la mort. Héral, la mort. Julien, la mort. De Saby, la mort. » Éternelle répercussion qui emplit toute l'histoire et qui, depuis que la justice humaine existe, a toujours mis l'écho du sépulcre sur le mur du tribunal. On désignait du doigt, dans la tumultueuse mêlée des visages, tous ces hommes d'où était sorti le brouhaha des votes tragiques. Paganel qui avait dit « la mort ». Un roi n'est utile que par sa mort. Millot qui avait dit « aujourd'hui, si la mort n'existait pas, il faudrait l'inventer ». Le vieux Raffron du Trouillet qui avait dit « la mort, vite ». Goupillot qui avait crié « l'échafaud tout de suite ». La lenteur aggrave la mort. Sieyès, qui avait eu cette concision funèbre, la mort. Thuriot, qui avait rejeté l'appel au peuple proposé par Buzot. Quoi ? Les assemblées primaires ? Quoi ? 44 000 tribunaux ? Procès sans terme. La tête de Louis XVI aurait le temps de blanchir avant de tomber. Augustin Bon Robespierre, qui, après son frère, s'était écrié « Je ne connais point l'humanité qui égorge les peuples et qui pardonne aux despotes. La mort, demander un sursis, c'est substituer à l'appel au peuple un appel au tyran. » Fouce-Édouard, le remplaçant de Bernardin de Saint-Pierre, qui avait dit « J'ai en horreur l'effusion du sang humain, mais le sang d'un roi n'est pas le sang d'un homme. » La mort. Jean Bon Saint-André, qui avait dit pas de peuple libre sans le tyran mort. La vicomterie qui avait proclamé cette formule « Tant que le tyran respire, la liberté étouffe. » La mort. Châteauneuf-Randon qui avait jeté ce cri « La mort de Louis le dernier. » Guillardin qui avait émis ce vœu « Qu'on l'exécute, barrière renversée. » La barrière renversée, c'était la barrière du trône. Tellier qui avait dit « Qu'on forge, pour tirer contre l'ennemi, un canon du calibre de la tête de Louis XVI. » Et les indulgents, gentils qui avaient dit « Je vote la réclusion. » Faire un Charles Ier, c'est faire un Cromwell. Bancal qui avait dit « L'exil, je veux voir le premier roi de l'univers condamné à faire un métier pour gagner sa vie. » Albouy qui avait dit « Le bannissement. » Que ce spectre vivant aille errer autour des trônes. Zangiacomi qui avait dit « La détention, gardons Capé vivant comme épouvantail. » Chaillon qui avait dit « Qu'il vive, je ne veux pas faire un mort dont Rome fera un saint. » Pendant que ces sentences tombaient de ses lèvres sévères et l'une après l'autre se dispersaient dans l'histoire, dans les tribunes, des femmes décolletées et parées comptait les voix, une liste à la main, et piquait des épingles sous chaque vote. Où est entrée la tragédie? L'horreur et la pitié restent. Voir la Convention, à quelque époque de son règne que ce fût, c'était revoir le jugement du dernier Capet. La légende du 21 janvier semblait mêlée à tous ses actes. La redoutable assemblée était pleine de ces haleines fatales qui avait passé sur le vieux flambeau monarchique allumé depuis 18 siècles et l'avait éteint. le décisif procès de tous les rois dans un roi était comme le point de départ de la grande guerre qu'elle faisait au passé. Quelle que fût la séance de la convention à laquelle on assista, on voyait s'y projeter l'ombre portée de l'échafaud de Louis XVI. Les spectateurs se racontaient les uns aux autres la démission de Kersin, la démission de Roland, du Châtel, le député des Deux-Sèvres, qui se fit apporter malade sur son lit et, mourant, vota la vie, ce qui fit rire Marat. Et l'on cherchait des yeux le représentant, oublié par l'histoire aujourd'hui, qui, après cette séance de 37 heures, tombé de lassitude et de sommeil sur son banc et réveillé par l'huissier quand ce fut son tour de voter, entr'ouvrit les yeux, dit « la mort » et se rendormit. Au moment où ils condamnèrent à mort Louis XVI, Robespierre avait encore 18 mois à vivre, Danton 15 mois, Vergniaud 9 mois, Marat 5 mois et 3 semaines, Le Pelletier Saint-Fargeau 1 jour. Court et terrible souffle des bouches humaines. Chapitre 8. Le peuple. Le peuple avait sur la convention une fenêtre ouverte, les tribunes publiques. Et quand la fenêtre ne suffisait pas, il ouvrait la porte et la rue entrait dans l'assemblée. Ces invasions de la foule dans ce Sénat sont une des plus surprenantes visions de l'histoire. Habituellement, ces irruptions étaient cordiales. Le carrefour fraternisait avec la chaise curule. Mais c'est une cordialité redoutable que celle d'un peuple qui, un jour, en 3 heures, avait pris les canons des Invalides et 40 000 fusils. À chaque instant, un défilé interrompait la séance. C'étaient des députations admises à la barre, des pétitions, des hommages, des offrandes. La pique d'honneur du faubourg Saint-Antoine entrait, portée par des femmes. Des Anglais offraient 20 000 souliers aux pieds nus de nos soldats. Le citoyen Arnoux, disait le moniteur, curé d'Aubignan, commandant du bataillon de la Drôme, demande à marcher aux frontières et que sa cure lui soit conservée. Les délégués des sections arrivaient, apportant sur des brancards des plats, des patènes, des calices, des ostensoirs, des monceaux d'or, d'argent et de vermeil, offerts à la patrie par cette multitude en haillons, et demandaient pour récompense la permission de danser la carmagnole devant la convention. Chenard, Narbonne et Vallière venaient chanter des couplets en l'honneur de la montagne. La section du Mont-Blanc apportait le buste de Le Pelletier, et une femme posait un bonnet rouge sur la tête du président qui l'embrassait. Les citoyennes de la section du Mail jetaient des fleurs aux législateurs. Les élèves de la patrie venaient, musique en tête, remercier la convention d'avoir préparé la prospérité du siècle. Les femmes de la section des gardes françaises offraient des roses. Les femmes de la section des Champs-Élysées offraient une couronne de chêne. Les femmes de la section du Temple venaient à la barre jurer de ne s'unir qu'à de vrais républicains. La section de Molière présentait une médaille de Franklin qu'on suspendait, par décret, à la couronne de la statue de la Liberté. Les enfants trouvés, déclarés enfants de la République, défilaient revêtus de l'uniforme national. Les jeunes filles de la section de 92 arrivaient en longue robe blanche et le lendemain, le moniteur contenait cette ligne. Le président reçoit un bouquet des mains innocentes d'une jeune beauté. Les orateurs saluaient les foules. Parfois, ils les flattaient. Ils disaient à la multitude « Tu es infaillible, tu es irréprochable, tu es sublime. » Le peuple a un côté enfant. Il aime ses sucreries. Quelquefois, l'émeute traversait l'assemblée, y entrait furieuse et sortait apaisée, comme le Rhône qui traverse le lac Léman et qui est de fange en y entrant et d'azur en en sortant. Parfois, c'était moins pacifique et Henriot faisait apporter devant la porte des Tuileries des grilles à rougir les boulets. Chapitre 9. En même temps. En même temps qu'elle dégageait de la Révolution, cette assemblée produisait de la civilisation. Fournaise, mais forge. Dans cette cuve où bouillonnait la terreur, le progrès fermentait. De ce chaos d'ombre et de cette tumultueuse fuite de nuages sortaient d'immenses rayons de lumière parallèles aux lois éternelles, rayons restés sur l'horizon, visibles à jamais dans le ciel des peuples, et qui sont l'un la justice, l'autre la tolérance, l'autre la bonté, l'autre la raison, l'autre la vérité, l'autre l'amour. La Convention promulguait ce grand axiome « La liberté du citoyen finit ou la liberté d'un autre citoyen commence », ce qui résume en deux lignes toute la sociabilité humaine. Elle déclarait l'indigence sacrée. Elle déclarait l'infirmité sacrée dans l'aveugle et dans le sourd-muet devenu pupille de l'État. La maternité sacrée dans la fille-mère qu'elle consolait et relevait. L'enfance sacrée dans l'orphelin qu'elle faisait adopter par la patrie. L'innocence sacrée dans l'accusé acquitté qu'elle indemnisait. Elle flétrissait la traite des Noirs, elle abolissait l'esclavage. Elle proclamait la solidarité civique. Elle décrétait l'instruction gratuite. Elle organisait l'éducation nationale par l'école normale à Paris, l'école centrale au chef-lieu et l'école primaire dans la commune. Elle créait les conservatoires et les musées. Elle décrétait l'unité de code, l'unité de poids et de mesure et l'unité de calcul par le système décimal. Elle fondait les finances de la France et à la longue banqueroute monarchique, elle faisait succéder le crédit public. Elle donnait à la circulation le télégraphe, à la vieillesse les hospices dotés, à la maladie les hôpitaux purifiés, à l'enseignement l'école polytechnique, à la science le bureau des longitudes, à l'esprit humain l'institut. En même temps que nationale, elle était cosmopolite. Des 11 210 décrets qui sont sortis de la Convention, un tiers a un but politique, les deux tiers ont un but humain. Elle déclarait la morale universelle, base de la société, et la conscience universelle, base de la loi. Et tout cela, servitude abolie, fraternité proclamée, humanité protégée, conscience humaine rectifiée, loi du travail transformée en droit et donéreuse devenue succourable, richesse nationale consolidée, enfance éclairée et assistée, lettres et sciences propagées, lumière allumée sur tous les sommets, aide à toutes les misères, promulgation de tous les principes. La Convention le faisait, ayant dans les entrailles cette hydre, la Vendée, et sur les épaules ce tas de tigres, les rois. Chapitre 10. Lieu immense. Lieu immense. Tous les types humains, inhumains et surhumains, étaient là. Amas épiques d'antagonisme. Guillotin évitant David, Bazire insultant Chabot, Gadet raillant Saint-Just, Vergniaud dédaignant Danton, Louvet attaquant Robespierre, Buzot dénonçant Égalité, Chambon flétrissant Pache, tous exécrant Marat. Et que de noms encore il faudrait enregistrer. Armonville dit Bonnet Rouge parce qu'il ne siégeait qu'en bonnet phrygien, ami de Robespierre et voulant, après Louis XVI, guillotiner Robespierre par goût de l'équilibre. Massieu, collègue et ménechme de ce bon Lamourette, évêque fait pour laisser son nom à un baiser. Le Hardi du Morbihan stigmatisant les prêtres de Bretagne. Barère, l'homme des majorités, qui présidait quand Louis XVI parut à la barre et qui était à Paméla ce que Louvet était à Lodoïska. L'oratorien Donou qui disait « Gagnons du temps ». Dubois Crancé, à l'oreille de qui se penchait Marat. Le marquis de Châteauneuf, Laclos, héros de Seychelles, qui reculait devant Henriot criant « Canonnier à vos pièces !» Julien, qui comparait la montagne aux thermophiles, Gamon, qui voulait une tribune publique réservée uniquement aux femmes, Laloi, qui décerna les honneurs de la séance à l'évêque Gobel, venant à la convention déposer la mitre et coiffer le bonnet rouge, le comte, qui s'écriait « C'est donc à qui se déprêtrisera ?» Féro, dont Boissy d'Anglas allura la tête, laissant à l'histoire cette question. Boissy d'Anglas a-t-il salué la tête, c'est-à-dire la victime, ou la pique, c'est-à-dire les assassins? Les deux frères Duprat, l'un montagnard, l'autre girondin, qui se haïssaient comme les deux frères Chénier. Il s'est dit à cette tribune de ces vertigineuses paroles qui ont, quelquefois, à l'insu même de celui qui les prononce, l'accent fatidique des révolutions, et à la suite desquelles les faits matériels paraissent avoir brusquement on ne sait quoi de mécontent et de passionné, comme s'ils avaient mal pris les choses qu'on vient d'entendre. Ce qui se passe semble courroucé de ce qui se dit. Les catastrophes surviennent, furieuses et comme exaspérées par les paroles des hommes. Ainsi, une voix dans la montagne suffit pour détacher l'avalanche. Un mot de trop peut être suivi d'un écroulement. Si l'on n'avait pas parlé, cela ne serait pas arrivé. On dirait parfois que les événements sont irascibles. C'est de cette façon, c'est par le hasard d'un mot d'orateur mal compris, qu'est tombée la tête de Madame Élisabeth. À la Convention, l'intempérance de langage était de droit. Les menaces volaient et se croisaient dans la discussion, comme les flammèches dans l'incendie. Petion. Robespierre, venez au fait. Robespierre. Le fait, c'est vous, Pétion. J'y viendrai, et vous le verrez. Une voix. Mort à Marat. Marat. Le jour où Marat mourra, il n'y aura plus de Paris, et le jour où Paris périra, il n'y aura plus de République. Billaud-Varenne se lève et dit « Nous voulons !» Barère l'interrompt « Tu parles comme un roi !» Un autre jour, Philippot « Un membre a tiré l'épée contre moi !» Audouin « Président, rappelez à l'ordre l'assassin !» Le président « Attendez !» Pagny « Président, je vous rappelle à l'ordre, moi !» On riait aussi rudement. Le cointre. Le curé de Champ-du-Bout se plaint de faucher son évêque qui lui défend de se marier. Une voix. Je ne vois pas pourquoi faucher qui a des maîtresses veut empêcher les autres d'avoir des épouses. Une autre voix. Prêtre, prends femme. Les tribunes se mêlaient à la conversation. Elles tutoyaient l'assemblée. Un jour, le représentant Ruampe monte à la tribune. Il avait une hanche beaucoup plus grosse que l'autre. Un des spectateurs lui cria « Tourne ça du côté de la droite, puisque tu as une joue à la David !» Telles étaient les libertés que le peuple prenait avec la Convention. Une fois pourtant, dans le tumulte du 11 avril 1793, le président fit arrêter un interrupteur des tribunes. Un jour, cette séance a eu pour témoin le vieux Buonarroti. Robespierre prend la parole et parle 2 heures, regardant Danton, tantôt fixement, ce qui était grave, tantôt obliquement, ce qui était pire. Il foudroie à bout portant. Il termine par une explosion indignée, pleine de mots funèbres. « On connaît les intrigants, on connaît les corrupteurs et les corrompus. » On connaît les traîtres. Ils sont dans cette assemblée. Ils nous entendent. Nous les voyons et nous ne les quittons pas des yeux. Qu'ils regardent au-dessus de leur tête et ils y verront le glaive de la loi. Qu'ils regardent dans leur conscience et ils y verront leur infamie. Qu'ils prennent garde à eux. Et quand Robespierre a fini, Danton, la face au plafond, les yeux à demi fermés, un bras pendant par-dessus le dossier de son banc, se renverse en arrière et on l'entend fredonner. Cadet-Roussel fait des discours qui ne sont pas longs quand ils sont courts. Les imprécations se donnaient la réplique.
conspirateurs, assassins, scélérats, factieux, modérés.
On se dénonçait au buste de Brutus qui était là.
Apostrophes, injures, défis. Regards furieux d'un côté à l'autre, poings montrés, pistolets entrevus, poignards à demi tirés. Énorme flamboiement de la tribune. Quelques-uns parlaient comme s'ils étaient adossés à la guillotine. Les têtes ondulaient, épouvantées et terribles. Montagnards, girondins, feuillants, modérantistes, terroristes, jacobins, cordeliers. 18 prêtres régicides. Tous ces hommes. Tas de fumée poussés dans tous les sens.
Chapitre 11. Esprits en proie au vent.
Esprit en proie au vent. Mais ce vent était un vent de prodige. Être un membre de la Convention, c'était être une vague de l'océan. Et ceci était vrai des plus grands. La force d'impulsion venait d'en haut. Il y avait dans la Convention une volonté qui était celle de tous et n'était celle de personne. Cette volonté était une idée, idée indomptable et démesurée, qui soufflait dans l'ombre du haut du ciel. Nous appelons cela la révolution. Quand cette idée passait, elle abattait l'un et soulevait l'autre, elle emportait celui-ci en écume et brisait celui-là aux écueils. Cette idée savait où elle allait et poussait le gouffre devant elle. Imputer la révolution aux hommes, c'est imputer la marée au flot. La révolution est une action de l'inconnu. Appelez-la bonne action ou mauvaise action, selon que vous aspirez à l'avenir ou au passé. Mais laissez-la à celui qui l'a faite. Elle semble l'œuvre en commun des grands événements et des grands individus mêlés. Mais elle est en réalité la résultante des événements. Les événements dépensent, les hommes paient. Les événements dictent, les hommes signent. Le 14 juillet est signé Camille Desmoulins. Le 10 août est signé Danton, le 2 septembre est signé Marat, le 21 septembre est signé Grégoire, le 21 janvier est signé Robespierre. Mais Desmoulins, Danton, Marat, Grégoire et Robespierre ne sont que des greffiers. Le rédacteur énorme et sinistre de ces grandes pages a un nom, Dieu, et un masque, Destin. Robespierre croyait en Dieu. Certes. La révolution est une forme du phénomène immanent qui nous presse de toutes parts et que nous appelons la nécessité. Devant cette mystérieuse complication de bienfaits et de souffrances se dresse le « pourquoi » de l'histoire. Parce que. Cette réponse de celui qui ne sait rien est aussi la réponse de celui qui sait tout. En présence de ces catastrophes climatériques qui dévastent et vivifient la civilisation, on hésite à juger le détail. Blâmer ou louer les hommes à cause du résultat, c'est presque comme si on louait ou blâmait les chiffres à cause du total. Ce qui doit passer, passe. Ce qui doit souffler, souffle. La sérénité éternelle ne souffre pas de ces aquilons. Au-dessus des révolutions, la vérité et la justice demeurent, comme le ciel étoilé au-dessus des tempêtes.
Chapitre 12. Telle était cette convention. Telle était cette convention démesurée. Quand retranchée du genre humain, attaquée par toutes les ténèbres à la fois. Feu nocturne d'une armée d'idées assiégées. Immense bivouac d'esprit sur un versant d'abîme. Rien dans l'histoire n'est comparable à ce groupe, à la fois sénat et populace, conclave et carrefour, aréopage et place publique, tribunal et accusé. La Convention a toujours ployé au vent, mais ce vent sortait de la bouche du peuple et était le souffle de Dieu. Et aujourd'hui, après 80 ans écoulés, chaque fois que devant la pensée d'un homme, quel qu'il soit, historien ou philosophe, la Convention apparaît, cet homme s'arrête et médite. Impossible de ne pas être attentif à ce grand passage d'ombre.
Marat dans la coulisse. Comme il l'avait annoncé à Simone Évrard, Marat, le lendemain de la rencontre de la rue du Pan, alla à la convention. Il y avait à la convention un marquis maratiste, Louis de Monteau, celui qui plus tard offrit à la convention une pendule décimale surmontée du buste de Marat. Au moment où Marat entrait, Chabot venait de s'approcher de Monteau. « Ci-devant, » dit-il. Monteau leva les yeux. « Pourquoi m'appelles-tu ci-devant ? » « Parce que tu l'es. »«
Moi ? » ?»«
Puisque tu étais marquis. »«
Jamais. » »«
Bah ! » !»« Mon père était soldat, mon grand-père était tisserand. » »«
Qu'est-ce que tu nous chantes là, Monteau ?»«
Je ne m'appelle pas Monteau. » »«
Comment donc t'appelles-tu ? »
« Je m'appelle Maribon. »«
Au fait, dit Chabot, cela m'est égal. »
Et il ajouta entre ses dents, « C'est à qui ne sera pas marquis ?»
Marat s'était arrêté dans le couloir de gauche et regardait Monteau et Chabot. Toutes les fois que Marat entrait, il y avait une rumeur, mais loin de lui. Autour de lui, on se taisait. Marat n'y prenait pas garde. Il dédaignait le coassement du marais. Dans la pénombre des bancs obscurs d'en bas, Compé de Loise, Prunel, Villard, évêque, qui plus tard fut membre de l'Académie française, Boutroux, Petit, Pléchard, Bonnet, Thibaudeau, Valdruche, se le montraient du doigt.
« Tiens, Marat, il n'est donc pas malade ?»«
Si, puisqu'il est en robe de chambre. »«
En robe de chambre ?»
« Pardieu, oui,
mais il se permet tout. Il ose venir ainsi à la convention.
Puisqu'un jour il y est venu coiffé de laurier, il peut bien y venir en robe de chambre.
Face de cuivre et dents de verre de gris.
Sa robe de chambre paraît neuve.
En quoi est-elle ?
En reps.
Rayée.
Regardez donc les revers.
Ils sont en peau.
De tigre.
Non, d'hermine.
« Fausse.
Et il a des bas.
C'est étrange.
Et des souliers à boucles.
D'argent.
Voilà ce que les sabots de Camboula ne lui pardonneront pas. »
Sur d'autres bancs, on affectait de ne pas voir Marat. On causait d'autres choses. Santonax abordait Dussault.
« Vous savez, Dussault ?»«
Quoi ?»«
Le ci-devant comte de Brienne. »
Et qui était à la force avec le ci-devant duc de Villeroy.
Oui,
je les ai connus tous les deux.
Eh bien,
ils avaient si grand peur qu'ils saluaient tous les bonnets rouges de tous les guichetiers, et qu'un jour, ils ont refusé de jouer une partie de piquet parce qu'on leur présentait un jeu de cartes à roi et à reine.
Eh bien,
on les a guillotinés hier.
Tous les deux ?
Tous les deux.
En somme, comment avait-il été dans la prison ?
Lâche.
Et comment ont-ils été sur l'échafaud ?
Intrépide.
Et Dussault jetait cette exclamation.
Mourir est plus facile que vivre.
Barrère était en train de lire un rapport. Il s'agissait de la Vendée. 900 hommes du Morbihan étaient partis avec du canon pour secourir Nantes. Redon était menacé par les paysans. Paimbœuf était attaqué. Une station navale croisait à Mandrin pour empêcher les descentes. Depuis Ingrande jusqu'à Maure, toute la rive gauche de la Loire était hérissée de batteries royalistes. 3000 paysans étaient maîtres de portiques. Ils criaient « Vive les Anglais !» Une lettre de Santerre à la Convention, que Barrère lisait, se terminait ainsi. « 7000 paysans ont attaqué Vannes. Nous les avons repoussés. » Et ils ont laissé dans nos mains 4 canons.
« Et combien de prisonniers ?»
interrompit une voix. Barrère continua. « Post-scriptum de la lettre. Nous n'avons pas de prisonniers parce que nous n'en faisons plus. » Marat, toujours immobile, n'écoutait pas. Il était comme absorbé par une préoccupation sévère. Il tenait dans sa main et froissait entre ses doigts un papier sur lequel quelqu'un qui l'eût déplié eut pu lire ces lignes, qui étaient de l'écriture de Momoreau et qui étaient probablement une réponse à une question posée par Marat. « Il n'y a rien à faire contre l'omnipotence des commissaires délégués.
surtout contre les délégués du comité de salut public. Génicieux a eu beau dire dans la séance du 6 mai « Chaque commissaire est plus qu'un roi », cela n'y fait rien. Ils ont pouvoir de vie et de mort. Massade à Angers, Trullard à Saint-Amand, Nyon près du général Marsay, Parrain à l'armée des Sables, Millier à l'armée de Niort sont tout puissants. Le club des Jacobins a été jusqu'à nommer Parrain général de brigade. Les circonstances absolvent tout. Un délégué du comité de salut public tient en échec un général en chef. Marat acheva de froisser le papier, le mit dans sa poche et s'avança lentement vers Montaut et Chabot qui continuaient à causer et ne l'avaient pas vu entrer. Chabot disait « Maribon ou Montaut, écoute ceci. Je sors du comité de salut public. » « Et qui fait-on ? » « On y donne un noble à garder à un prêtre. » « Ah, un noble comme toi ! » !»«
Je ne suis pas noble, » dit Montaut.
« À un prêtre !»«
Comme toi ! » !»«
Je ne suis pas prêtre, » dit Chabot. Tous deux se mirent à rire. « Précise l'anecdote, » repartit Montaut. « Voici ce que c'est. Un prêtre, appelé Simourdin, est délégué avec plein pouvoir près d'un vicomte nommé Gauvin. Ce vicomte commande la colonne expéditionnaire de l'armée des côtes. Il s'agit d'empêcher le noble de tricher et le prêtre de trahir.
« C'est bien simple, » répondit Montaut.
« Il n'y a qu'à mettre la mort dans l'aventure. »
« Je viens pour cela, » dit Marat.
Ils levèrent la tête.
« Bonjour, Marat, » dit Chabot. « Tu assistes rarement à nos séances. »«
Mon médecin me commande les bains, » répondit Marat.
« Il faut se défier des bains, » reprit Chabot. « Sénèque est mort dans un bain. »
Marat sourit. « Chabot, il n'y a pas ici de Néron. »«
Il y a toi, » dit une voix rude.
C'était Danton qui passait et qui montait à son banc. Marat ne se retourna pas. Il pencha sa tête entre les deux visages de Montaut et de Chabot.
« Écoutez, je viens pour une chose sérieuse. Il faut qu'un de nous trois propose aujourd'hui un projet de décret à la Convention. »«
Pas moi, » dit Montaut. « On ne m'écoute pas, je suis marquis. »«
Moi, » dit Chabot, « on ne m'écoute pas, je suis capucin. »«
Et moi, » dit Marat, « on ne m'écoute pas, je suis Marat. » Il y eut entre eux un silence. Marat, préoccupé, n'était pas aisé à interroger. Montaut, pourtant, hasarda une question. « Marat, quel est le décret que tu désires ?»«
Un décret qui punisse de mort tout chef militaire qui fait évader un rebelle prisonnier. »
Chabot intervint.
« Ce décret existe. On a voté cela fin avril. »
« Alors, c'est comme s'il n'existait pas, » dit Marat.
Partout, dans toute la Vendée, c'est à qui fera évader les prisonniers, et l'asile est impuni.
Marat, c'est que le décret est en désuétude.
Chabot, il faut le remettre en vigueur.
Sans doute.
Et pour cela, parler à la Convention.
Marat, la Convention n'est pas nécessaire. Le comité de salut public suffit.
Le but est atteint, ajouta Montaut.
Si le comité de salut public fait placarder le décret dans toutes les communes de la Vendée et fait deux ou trois bons exemples.
Sur les grandes têtes, reprit Chabot, sur les généraux.
Marat grommela. En effet, cela suffira.
Marat, repartit Chabot, va toi-même dire cela au comité de salut public.
Marat le regarda entre les deux yeux, ce qui n'était pas agréable, même pour Chabot.
Chabot, dit-il. Le comité de salut public, c'est chez Robespierre. Je ne vais pas chez Robespierre.
J'irai, moi, dit Montaut.
Bien, dit Marat.
Le lendemain, était expédié dans toutes les directions un ordre du comité de salut public enjoignant d'afficher dans les villes et villages de Vendée et de faire exécuter strictement le décret portant peine de mort contre toute connivence dans les évasions de brigands et d'insurgés prisonniers. Ce décret n'était qu'un premier pas. La Convention devait aller plus loin encore. Quelques mois après, le 11 Brumaire an 2,
novembre 1793, à propos de Laval, qui avait ouvert ses portes aux Vendéens fugitifs, elle décréta que toute ville qui donnerait asile aux rebelles serait démolie et détruite. De leur côté, les princes de l'Europe, dans le manifeste du duc de Brunswick, inspiré par les émigrés et rédigé par le marquis de Linon, intendant du duc d'Orléans, avaient déclaré que tout Français, pris les armes à la main, serait fusillé, et que, si un cheveu tombait de la tête du roi, Paris serait rasé. Sauvagerie contre barbarie.